c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Alors toi, même si tu t'es mis sous le buffet, crois-moi, je te vois, il fallait mieux te cacher. Du coup, allez hop hop hop, retour à la case départ mon petit fantôme. Pendant ce temps-là, moi j'avance tranquillement et de cette case en plus, pas vu, pas pris, est un jeu de Phil Viscaro et Amin Mohamed Ramni, illustré par Sylvain Aublin, le tout édité par Leteia. Alors dans pas vu, pas pris, il va falloir observer et bien regarder par le trou de la serrure pour voir si un fantôme est dans le champ de mire. Tous ceux qui sont vus, eh bien sont pris et doivent retourner à l'entrée du hall. Les autres, eh bien ils ne sont pas vus, donc pas pris. Dans ce jeu d'observation, chaque joueur a ses petits fantômes. Et vous devez traverser le hall pour être tranquille. Mais évitez de faire du bruit, sinon vous allez réveiller les clients de l'hôtel. À votre tour, vous pourrez bouger des meubles pour vous cacher. Un jeu qui s'adresse aux enfants, mais pas que, hein, les adultes adorent. Déjà le matériel est sublime, des meubles en 3D, fauteuils, comptoirs de bar, miroirs, guéridons et j'en passe, à vrai dire, des meubles que l'on peut retrouver dans un hall d'hôtel. Il y a aussi des petits fantômes translucides, des gros, des moyens et des petits, de 4 couleurs différentes. Enfin, dernière chose importante, c'est la grosse serrure que vous placerez autour du plateau. Alors dans Pas vu, pas pris, chaque joueur va devoir s'occuper de sa famille de fantômes et les placer de son côté du plateau derrière les différentes portes. Leur but, traverser tout le plateau. Au milieu de la pièce, il y aura des meubles en plastique que vous aurez peut-être la possibilité de bouger. Voilà comment ça joue. Vous allez voir, c'est très simple. Vous piochez tous une carte déplacement. Alors cette carte vous dira de vous déplacer entre 5 et 10 cases. Mais sur certaines, il y a des meubles dessus. Cela signifiera qu'avant de vous déplacer, vous avez la possibilité de déplacer un meuble. Ensuite, vous déplacez vos fantômes, exemple j'ai un 6 avec dessus un guéridon et un comptoir de bar. Je peux déplacer le meuble que je souhaite, je peux d'ailleurs le mettre comme je veux sur le plateau, le guéridon peut être retourné, et ensuite déplacer mes fantômes de 6 cases. Je peux déplacer le gros de 3 cases, un petit de 2 cases et encore un autre d'une case. Mais c'est possible de n'avancer qu'un seul fantôme de 6 cases. En gros, c'est à vous de répartir les déplacements de vos petits fantômes. Il va falloir essayer aussi de cacher au mieux vos fantômes derrière les meubles. Car si le but est d'atteindre l'autre côté du plateau, il ne faut pas être vu par le trou de la serrure. On va y revenir car c'est la deuxième phase du jeu. Chacun votre tour, vous allez lancer un dé. Celui qui obtient le plus gros chiffre va choisir un côté du plateau pour placer la serrure. Ensuite, ce joueur va relancer le dé et placera la serrure sur l'une des 6 portes. Le dé est tombé sur le 3, je place la serrure sur la porte 3. Puis tous les joueurs vont regarder par le trou de la serrure et tous les fantômes que vous voyez repartent chez eux. En gros, de leur côté du plateau. Le voyage est terminé pour le moment, attention, ne soyez pas de mauvaise foi. Ce moment de la partie est excellent car il faudra faire un petit peu de gym et se plier autour de la table pour mettre son œil dans le trou de la serrure. Pas vu, pas pris m'a fait penser un petit peu à la maison des souris où il fallait regarder par les fenêtres. Mais si le jeu de Gigamix s'adressait aux petits, là on est vraiment sur un public familial. C'est certainement l'un des jeux les plus originaux de cette année. On en parle avec Adrien Leteia d'ici 3 minutes. C'est juste après Lil Nas X.
L'invité de la semaine.
Et mon invité cette semaine, c'est Adrien Leteia. Bonjour Adrien.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, je viens de présenter à l'instant Pas vu, pas pris, ton nouveau jeu. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu avant Leteia, comment tu es arrivé dans le monde du jeu notamment?
Eh bien, Leteia, c'est une maison d'édition qui existe depuis plus de 10 ans, qui a été fondée par Abel Lanzac, le scénariste de la BD Quai d'Orsay, qui justement à l'époque avait remporté le prix d'Angoulême.
Ouais.
Et donc il a monté Leteia pour éditer un jeu dans le même esprit, qui s'appelait à l'époque La Course à l'Elysée.
D'accord.
Et c'est ce qui a lancé Leteia. Donc Leteia, c'est une maison d'édition qui veut faire des jeux familiaux, pour toute la famille donc, et qui ont leur côté original qui fait que on veut que chaque jeu qu'on sort soit une référence dans son domaine et qu'il puisse faire partie de toutes les bonnes bibliothèques.
D'accord, donc c'est ça l'ADN de Leteia, c'est plus jeu familial.
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors on va parler donc de Pas vu, pas pris. Comment est arrivé Pas vu, pas pris? Est-ce que la rencontre avec Phil Viscaro, qu'est-ce qui a fait que tu édites ce jeu? Comment ça s'est passé?
Ouais, bah c'était finalement le hasard, le bon hasard, parce que il y a Phil et moi, on se connaissait pas et on faisait partie du même groupe sur Facebook de prototypes entre guillemets. Donc moi j'y étais en tant qu'éditeur pour justement regarder ce que les différents auteurs pouvaient proposer et quand j'ai vu une photo de pas vu, pas pris, donc qui est fait par Amine et Phil.
Ouais.
Je me suis dit, waouh, là, il y a un concept génial. Et donc, j'ai tout de suite écrit à Phil, qui m'a envoyé un prototype. Et la semaine d'après, on a signé un contrat.
D'accord. Donc, ça s'est fait rapidement, alors.
C'était un jeu à pas rater, que je trouvais très original. Et donc, il m'a tout de suite séduit, quoi.
Les auteurs l'avaient montré à d'autres éditeurs avant ?
Il me semble, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, mais effectivement, il me semble que le jeu était chez un autre éditeur avant. Ouais.
Alors, je suppose que quand tu as eu le proto, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui dans les magasins.
Non, et d'ailleurs, ni dans le gameplay, l'aspect esthétique.
Ouais.
Côté gameplay, en fait, il y avait toujours des fantômes, des meubles et une serrure.
D'accord.
Simplement, les meubles étaient en fait des petits cubes en bois qui étaient collés les uns avec les autres.
D'accord.
Et en fait, on devait lancer le dé au début du tour. On avait plusieurs dés et on pouvait répartir notre somme de dés, soit pour faire déplacer nos fantômes, un peu comme actuellement, soit pour déplacer les meubles. Et en fait, c'est-à-dire que s'il y avait deux petits cubes collés, eh ben, il fallait au moins deux pour pouvoir bouger le meuble. Donc, c'est-à-dire qu'on ne dépensait pas beaucoup de notre jet de dés, mais on déplaçait des petits meubles. En revanche, s'il y avait 6 ou 7 petits cubes collés, ça faisait un gros meuble qui permettait de bien se cacher.
Ouais.
Mais du coup, il fallait dépenser plus de dés.
Enfin, d'accord.
De points de dés, quoi.
Et alors, du coup, comment tu as décidé de partir sur des meubles en plastique, en 3D ?
Eh ben, en fait, moi, mon ambition, c'était de faire un jeu qui était très visuel. Et donc, des cubes, je trouvais ça moyen pour le... Enfin, c'était sympa pour le gameplay, mais c'était moyen pour l'immersion.
Ouais.
Et donc, je voulais que ça ressemble à des vrais meubles. Donc, on a d'abord fait des meubles qui ressemblaient un peu plus à des meubles. Et petit à petit, ça a été raffiné pour le design qu'on connaît. Et du coup, on a perdu le côté jet de dé qui, par ailleurs, était un petit peu... C'est un petit peu compliqué parfois de savoir comment répartir.
Parce que là, c'est vrai que il suffit donc d'utiliser la carte pour faire avancer un ou plusieurs fantômes.
Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que avant, quand on lançait 3D, on pouvait faire triple 1, donc ça nous faisait 3. Alors que celui qui faisait triple 6, il avait 18 points de déplacement. Donc entre 3 et 18, il y en avait un qui arrivait dans un seul tour 14 fantômes et l'autre qui n'en sortait aucun. Et ça, c'était très frustrant en fait. Donc là, avec les cartes, ça nous permettait de réguler, de se dire, ok, bon bah, on peut passer quand même du simple au double. Quelqu'un peut tirer un 5, quelqu'un d'autre un 10. Mais sur la carte 5, on peut déplacer un meuble pour créer une cachette en plus. Les petits chiffres ont des cachettes et non pas les gros chiffres.
Et puis les meubles, on peut les retourner dans tous les sens, même les superposer. Hein.
Ouais, alors ça vraiment, c'était quelque chose. On voulait un jeu très ludique, qu'on puisse justement, quitte à manipuler des objets, on voulait vraiment se faire plaisir là-dessus. Donc on peut cacher des fantômes à l'intérieur des meubles, on peut mettre les meubles n'importe comment les uns par-dessus les autres, justement pour créer un gros bunker parfois ou pas. Et donc on peut mettre les meubles dans n'importe quel sens, mettre les fantômes par-dessus, dedans, par-dessous. Tant que ça tient, c'est bon.
Quels sont les premiers retours que tu as sur le jeu ?
Ben, pour l'instant, les retours, ils sont... Moi, ça me fait super plaisir, ils sont très très bons. Donc on a pu envoyer quelques boîtes, on a envoyé un paquet de boîtes d'ailleurs même à différents influenceurs ou critiques. Et pour l'instant, les retours sont très bons avec deux côtés. Je pense qu'il y a d'une part l'originalité du gameplay qui est saluée. On regarde à travers la serrure, il y a un côté tout de suite immersif qui nous prend un peu aux tripes à nos désirs d'enfant de regarder par la serrure. Et donc ça marche très bien. Et d'autre part, je crois que le choix esthétique, les couleurs, le fait d'avoir des objets qu'on manipule, qui sont un peu tordus, mais pas trop, des petits fantômes translucides, tout ça, je crois que ça plaît bien aussi. Et donc, ben, je suis ravi pour l'instant. J'espère que le public aimera aussi. Et donc là, on va attendre que le jeu s'implante.
Donc, il est sorti la semaine dernière.
Hein. Et donc, il est sorti effectivement vendredi dernier. Et donc là, ça fait une semaine aujourd'hui.
Donc, une semaine, on peut dire, hein, les critiques sont plutôt bonnes sur ce jeu. On note surtout l'originalité du jeu.
Ouais.
Parce que
effectivement, d'une part, je pense que manipuler des objets comme ça, de pouvoir les mettre n'importe comment, mais surtout de regarder à travers la serrure et d'avoir cet effet cache-cache, un, deux, trois soleils, c'est quelque chose effectivement qui est relativement nouveau, je pense. Ouais.
Est-ce
et
que
les rats, et en fait, c'est un peu ça le truc qu'on voulait nous aussi dans cette catégorie famille, c'est pas une catégorie enfant, enfin pas tout à fait. Et donc, on voulait qu'aussi il y ait un plaisir de jeu qui puisse parler aux adultes. Et donc, on est sur un jeu qui est effectivement quand même plutôt enfant. On a travaillé le gameplay aussi pour que les adultes puissent y amuser.
Est-ce que le jeu a eu le temps de tourner un petit peu sur les festivals ?
Donc, en fait, à vrai dire, le jeu, il était déjà au stade prototypal. À Cannes, au dernier Cannes qu'il y a eu, donc il y a 2 ans.
D'accord.
Qui d'ailleurs avait été repéré par Ludovox à l'époque, Fanny. Et puis ensuite, il a été présenté au Vichy de l'année dernière, puis au Vichy de cette année. Donc effectivement, il a été montré petit à petit avec plus d'ampleur ces derniers temps. Ouais.
On pourrait imaginer, je ne sais pas, dans un festival comme Cannes, avoir un pas vu pas pris grandeur nature.
Ah là là, ça ce serait super déjà pour Cannes. Ce qu'on imaginait, c'est effectivement de mettre une grosse serrure et pouvoir cacher des fantômes, une grosse serrure
ouais.
d'1m50 et de cacher des fantômes dans le festival et puis que les gens en passant regardent et essaient de trouver le nombre de fantômes. Ce serait chouette et en fait un pas vu pas pris de grandeur nature avec des énormes meufs, ça prendrait beaucoup de place. C'est effectivement super chouette, j'y ai réfléchi. Mais bon, après, il y a les contraintes d'espace du festival avec qui on discute.
Mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui pourrait exister grandeur nature quand on y pense.
Ouais, c'est drôle. Chez nous, presque, on pourrait chacun faire ça chez toi.
C'est ça, ouais. On va faire un tour, Adrien, des autres jeux de la gamme. Alors, dernièrement, on a eu Wink.
Oui, donc Wink, c'est un jeu d'ambiance... Où, pour ceux qui ont joué au Kems, on est sur des sensations assez similaires dans le sens où il faut qu'on fasse un clin d'œil discrètement à quelqu'un.
D'accord.
La grosse différence, c'est que notre partenaire change à chaque tour et lui, il n'est pas au courant que c'est nous qui devons lui faire un clin d'œil.
Ouais.
Donc en gros, ça donne une sensation de jeu où on va se regarder tous autour de la table, ça se joue de 4 à 8 joueurs, et on sait qu'il y a quelqu'un qui doit nous faire un clin d'œil autour de la table, mais on ne sait pas qui, alors on regarde les autres. Nous-mêmes, il faut qu'on fasse un clin d'œil à l'un des joueurs. Mais lui ne sait pas nécessairement et puis il ne nous regarde jamais, comme toujours dans ces
ouais.
jeux-là. Et en plus de tout ça, on est à l'affût des clins d'œil que peuvent se faire les joueurs les uns les autres. Et là, on fait contre-espionnage, contre Ken, pour les voir. Donc ça, c'est un jeu qui marche très bien. Il est sorti au mauvais moment, puisqu'il est sorti entre le deuxième et le troisième confinement. On pensait que c'était la fin du Covid
ouais.
Et que ça allait donc que les gens allaient avoir besoin de se retrouver autour d'un jeu d'ambiance. Bon, c'était un mauvais pari, donc... Il est passé un peu sous les radars. Néanmoins, c'est un jeu qui existe depuis quelques temps. Nous, on en a fait la réédition. Et il marche très bien. Il s'est très bien vendu à l'export.
C'est sûr donc que les jeux d'ambiance, ça a été un peu compliqué cette année quand même.
Ouais. Donc effectivement, ça a été un peu compliqué cette année. Donc, on espère qu'il marchera bien et à Noël et l'année prochaine. Nous, on l'a voulu très coloré sur cette réédition. Donc, ça se passe... dans un carnaval, on retrouve nos complices, nos espions complices. Donc, chaque carte est colorée avec des espions qui sont déguisés, mais qui ont chacun des petits gadgets.
Ouais, j'ai vu les photos, ça a l'air très sympa en tout cas.
Super, merci.
On a aussi Sherlock 13.
Ouais, donc Sherlock 13, c'est un jeu de déduction, un peu, à vrai dire, c'est un peu comme un Cluedo, dans le sens où les joueurs ont tous... une partie de l'identité du coupable entre les mains et on va devoir se poser des questions les uns après les autres, des questions ouvertes donc que tout le monde entend sur les cartes que possèdent les uns et les autres. Et en fait, ça va être un jeu assez fin où il va falloir poser des questions pour nous collecter de l'information sans trop dévoiler ce qu'on peut avoir ou sans trop donner de pistes aux autres. Donc c'est un jeu assez fin de déduction qui joue très vite. Ça dure 10-15 minutes une partie, parce que
ouais.
c'est 2 à 4 joueurs. Et justement, à peine on a terminé, qu'on a tout de suite envie d'en refaire une. Bon, nous, c'est pour moi un bon signe, je pense, comme tout le monde. d'avoir ce côté. La tension monte au fur et à mesure de la partie. La partie s'arrête. Et du coup, on dit, allez, on en refait une. Sherlock 13, c'est ça.
Le monde du jeu a pris une place importante, finalement, avec la crise sanitaire et le confinement. Est-ce que c'est compliqué d'être un petit éditeur ?
Ça a été compliqué pendant le Covid. Tout le monde dit, le marché du jeu explose, effectivement. Je pense que quand on est un petit éditeur, c'est compliqué à plusieurs titres. D'une part, parce qu'en termes de notoriété, ben, on n'a pas la notoriété des plus gros. Donc, si jamais on sort un jeu pendant le Covid, et ça, c'est le cas de Wink, et ben, il passe sous les radars, ouais. Bien plus que pourraient le faire d'autres éditeurs, qui ont par ailleurs eux-mêmes des jeux qui... des jeux phares qui sont très bien vendus. Ben nous on n'a pas eu cette montée en puissance, on va dire pendant le confinement. Et le fait de pas avoir de festival, ça a été très dur parce que pour nous c'est une excellente vitrine pour pouvoir montrer nos jeux,
ouais.
De rencontrer des dizaines voire des centaines de personnes qui peuvent tester nos jeux, qui en parleront ensuite dans leur foyer, auprès de leurs amis, etc. Donc ça a été très dur et puis ça a été compliqué ensuite de rencontrer des auteurs. Pour qu'ils puissent nous présenter des protos pendant cette année et demie où on n'a pas vu grand monde, c'est plus dur effectivement de à la fois tester les jeux, de tester les protos qu'on a en cours et à la fois de détecter de nouvelles opportunités pour nous.
Dernière chose, Adrien, s'il y a un jeu, alors hormis les jeux de ta gamme, s'il y a un jeu coup de cœur cette année, ça serait lequel ?
Moi, j'ai testé la semaine dernière, à vrai dire, Nouvelle Contrée.
Ouais.
Un jeu édité par Olibrius. Et j'ai été séduit par l'originalité. C'est quelque chose qui, moi, m'interpelle beaucoup. J'ai été séduit par l'intérieur de la boîte, que je trouve très bien édité. Très beau dessin. Donc, Nouvelle Contrée, c'est un jeu qui se joue avec des marque-pages.
Ouais. Pour pouvoir
aller chercher le sens caché d'un livre. Et en fait, j'ai trouvé à la fois le jeu très original, c'est un jeu coopératif, j'ai trouvé très frais.
Donc, et ça marche bien avec tous les livres ?
Et je l'ai testé une seule fois avec un seul livre, donc je ne sais pas. Mais ouais, ça avait bien marché. Je présume que ça doit pouvoir marcher avec n'importe quel livre, sauf en l'occurrence, on l'applique là au pif.
Eh ben, merci beaucoup, Adrien, d'avoir été dans C'est Ludique sur Millennium. Et on aura l'occasion certainement de se reparler et on se verra certainement à Cannes.
Avec grand plaisir, merci beaucoup pour cet entretien et puis avec plaisir pour se recroiser et jouer à Pas vu, pas pris, ensemble.
À bientôt Adrien, salut.
Au revoir.